Bonjour et bienvenue dans Libre Débat, comme tous les mercredis de 16h30 à 18h. Alors aujourd'hui, trouvez sur les ondes des radios libres une émission de Radio Piquez. Radio Piquez, c'est une chouette web radio bretonne et qui a réalisé lors du festival intergalactique une émission consacrée aux inculpés du 8 décembre 2020. Une émission qui s'appelle Antiterrorisme et désinformation. Un an après la grosse vague d'arrestations du 8 décembre 2020, cette émission fait le point sur cette opération médiatique de désinformation en donnant la parole aux proches. Bonne écoute.
Un matin de décembre 2020, je me suis réveillée avec à peu près ça dans les oreilles.
Sept personnes ont été présentées à un juge antiterroriste après leur interpellation en banlieue parisienne, mais également près de Toulouse.
À Vitry, dans le Val-de-Marne, à Tubiac, en plusieurs endroits.
Tous seraient membres
de la mouvance ultra-gauche.
Que sait-on des suspects?
Il s'agit de 6 hommes et une femme âgée de 30 à 36 ans.
Il y a plusieurs hommes, je vous l'ai dit, qui ont entre 25 et 40 ans.
Soupçonnés d'avoir voulu préparer une action
violente. Oui, c'est une enquête des services de renseignement qui est conduite par un juge antiterroriste depuis 8 mois déjà.
Si la date et le lieu n'étaient pas encore précis.
On ne connaît pas à ce stade les cibles qui auraient pu être visées, ni le degré de préparation du groupe.
Plusieurs sources nous affirment que les forces de l'ordre figuraient parmi les cibles envisagées.
Preuve que les suspects avaient les moyens d'agir. Des armes ont été retrouvées en perquisition.
Des couteaux et des fusils de chasse.
Ainsi que des produits pouvant entrer dans la composition d'engins explosifs.
Et il y a parmi eux l'un des suspects qui est un militant anarcho-autonome. Il a combattu au Rojava, c'est une enclave kurde en Syrie. Et il est revenu en janvier 2018. La police le soupçonne depuis de tenter de constituer en France un groupe pour mener des actions de guérilla sur notre sol.
Mais ces interpellations interviennent dans un contexte particulier avec des manifestations qui se succèdent depuis plusieurs semaines dans lesquelles s'infiltrent des groupuscules d'extrême gauche particulièrement violents.
Les 7 activistes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. 5 d'entre eux ont été placés en détention provisoire.
Il faut également rappeler que la dernière affaire de terrorisme présumé liée à l'ultra-gauche remonte à 2008 et au groupe de Tarnac, soupçonné d'avoir saboté des lignes TGV. Le dossier avait fini en un naufrage policier, l'ensemble des accusés étant relaxés par la justice.
Le 8 décembre dernier, en plein mouvement contre le projet de loi de sécurité globale, dans un contexte de montée aux extrêmes de la violence policière et pour faire taire la contestation, trop de répression, trop de violence, trop de bavures, trop d'affaires, trop de racisme. Le chef de l'État annonçait la tenue d'un Beauvau de la sécurité. Un débat national est annoncé, la réforme est en marche. Le 8 décembre 2020, au petit matin, 9 militantes, 9 camarades sont arrêtés. On les suspecte d'intentions violentes envers les institutions, la police, la République. Lesquelles ? Pour prévenir le crime, la police ne s'embarrasse pas de faits. Des mois d'enquête et de perquisition aux quatre coins de la France, mais aucun projet exprimé, exprimable, de cible identifiée, identifiable, ou d'éléments matériels substantiels. Un chef d'inculpation fait l'affaire, association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Par voie de presse, les services de renseignement s'empresseront de publiciser leur exploit, le qualifiant pompeusement de coup de filet. Inculpé. Il en restera toujours quelque chose. Un fantasme policier a instillé dans le débat public la suspicion d'une violence latente, aveugle et meurtrière, prête à émerger des mouvements sociaux. Pour donner corps à ces obsessions d'ennemis intérieurs, on incarcère. Depuis près d'un an, certaines de ces inculpées pourrissent en prison. Couverts par le secret de l'instruction et en l'absence du moindre travail journalistique, la désinformation politique tient ses ministères. Écoutez, nombreuses, il faut défaire la police, parler de cette affaire, libérer les inculpés. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le Festival Intergalactique. Vous allez entendre une émission de Radio Piquez consacrée à l'affaire dite du 8 décembre, affaire d'antiterrorisme. On a ce soir en plateau Camille et son frère qui viennent de Rennes. Par téléphone, le comité de soutien de Paris et en enregistrement, le comité de soutien de Toulouse. Je vais te passer la parole tout de suite.
Okay.
Et tu vas nous parler du Rojava, qui dans cette affaire a été instrumentalisé pour créer une figure de leader dangereux.
Bonsoir à tous. Moi, je suis le petit frère d'une des mises en examen. Je fais partie du comité de soutien aux inculpés du 8 décembre de Rennes. Et j'ai écrit un petit texte pour essayer de faire un récit de cette affaire, entre guillemets, et pour que les gens comprennent bien. Donc, c'est un récit situé, c'est une manière de le raconter. Et j'entends bien qu'on pourrait le raconter autrement. La répression antiterroriste du 8 décembre a été rendue possible par un processus contre-subversif déjà entamé depuis des années. Il faut remonter en janvier 2014, lorsque la commune du Rojava est proclamée, dans le nord de la Syrie, historiquement kurde. Le PYD, parti de l'Union démocratique, proche du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, prend le contrôle de la zone et annonce l'instauration d'une zone autonome en s'inspirant du socialisme libertaire et du confédéralisme démocratique. En 2015, un appel à soutien international est lancé et une trentaine de Français s'organiseront pour y protéger la paix en participant à la guerre de légitime défense contre Daesh et l'armée turque. Ce qui n'est pas du goût de l'État français qui entretient des liens étroits avec le dictateur turc Erdogan. Ces arrestations interviennent dans une longue tradition de répression des mouvements kurdes et pro-kurdes en Europe. En 2013, deux officiers du renseignement turc avaient assassiné à Paris trois militantes kurdes, Sakin Kansiz, Fidan Dogan et Leyla Seylemez. En mars 2020, en Grèce, sous couvert de lutte antiterroriste, le Comité de solidarité pour les prisonniers politiques en Turquie et au Kurdistan et le Front anti-impérialiste avaient été la cible d'un raid policier. Entre 26 et 35 personnes furent arrêtées. Le 23 mars 2021, en France, il y a eu le plus grand coup de filet dans les réseaux militants kurdes de ces 10 dernières années. 10 personnes ont été interpellées par la DGSI. Leurs domiciles ont été violemment perquisitionnés, ainsi que le siège de l'association kurde à Marseille. Elles sont officiellement accusées de participation à une association de malfaiteurs, de financement d'une organisation terroriste et d'extorsion en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. 7 d'entre elles ont été envoyées en prison. Cela intervient quelques jours après un échange téléphonique entre Macron et Erdogan et une rencontre de leurs deux ministres des Affaires étrangères. En plein Conseil européen sur la géopolitique internationale. Enfin, la semaine dernière, une militante espagnole a été expulsée d'Allemagne et interdite de séjour pendant 20 ans au motif qu'elle travaillait en relation avec des organisations et institutions kurdes. C'est dans ce contexte de criminalisation internationale que le collectif des combattantes et combattants francophones du Rojava expliquait dans une tribune de soutien après les arrestations du 8 décembre que la DGSI a immédiatement établi un tri entre les mauvais volontaires se réclamant d'une idéologie révolutionnaire et les bons volontaires, anciens militaires ou apolitiques, qui pour certains ne furent même pas auditionnés à leur retour en France. Ceux qui étaient identifiés comme de potentiels membres de l'ultra-gauche se retrouvèrent systématiquement fichés S et firent l'objet d'une surveillance active tout en étant coupables de rien d'autre que d'un délit d'opinion. Arrestations à l'aéroport, menaces sous forme de conseils paternalistes, pression sur nos familles, nous sommes nombreux à avoir fait l'objet de tentatives d'intimidation plus ou moins voilées de la part des services de sécurité. Fin 2016, la DGSI fit irruption chez l'un d'entre nous pour lui retirer son passeport et sa carte d'identité afin de l'empêcher de retourner au Kurdistan syrien. Le ministère de l'Intérieur affirmait alors que ce combattant du YPG pouvait être à l'origine, je cite, « de graves troubles à l'ordre public » et était susceptible d'utiliser son expérience militaire, je cite, « dans des attaques contre les intérêts français en lien avec l'ultra-gauche révolutionnaire ». Ces accusations complètement fantaisistes furent balayées par le tribunal administratif de Paris quelques mois plus tard. Mais le ministère de l'Intérieur fut ensuite contraint de lui rendre ses documents d'identité et de lui verser des dommages et intérêts. En dépit de cette victoire judiciaire, nous savions que la DGSI nous garderait dans son collimateur et était prête à tout, y compris à des accusations sans preuve, pour nous faire rentrer dans le moule qu'elle avait créé, celui de dangereux vétérans d'ultra-gauche cherchant à imposer la violence du conflit syrien de retour chez eux. Cette caricature a été construite dès le départ, ex nihilo, avant même que l'un d'entre nous ne remette les pieds sur le territoire français. Même si de retour en France, aucun volontaire n'a jamais été impliqué dans des actions violentes, la DGSI attendait patiemment l'occasion de piéger l'un d'entre nous pour pouvoir enfin donner une crédibilité à ses fantasmes. La présomption de culpabilité était alors lancée sur tout militant ayant mis le pied là-bas. Ce qui fut le cas de notre ami accusé et placé à l'isolement illégalement encore aujourd'hui. Son isolement a été reconduit d'ailleurs hier ou avant-hier par Éric Dupond-Moretti. Là encore, le CCFR témoigne que, Notre camarade était en Syrie pour combattre Daesh. Il a pris part en 2017 à la libération de Raqqa, la capitale du groupe djihadiste. Raqqa est aussi la ville où les attentats de Paris ont été planifiés et où la plupart de ses auteurs ont été entraînés. Si la France n'a pas connu d'attentats de grande ampleur depuis des années, c'est grâce à la libération de Raqqa, à laquelle notre camarade a participé au péril de sa vie. En combattant en Syrie, ce dernier a donc directement contribué à la sécurité des Français, ce que le tribunal médiatique s'est bien gardé de mentionner. Comment en effet faire rentrer dans leur narration à charge que l'accusé ait donné bien plus à la lutte contre le terrorisme que les policiers, procureurs, journalistes qui l'accusent aujourd'hui d'être un terroriste d'ultra-gauche ? La France a une longue expérience de contre-subversion. C'est elle-même qui en a théorisé certains fondements dans les années 50, puis l'a exporté sur le continent américain. L'élément primordial de la contre-révolution était défini par le colonel Lacheroy comme la prise de possession des âmes, la guerre psychologique. Le journal Mediapart a été un outil du gouvernement pour construire la culpabilité des inculpés du 8 décembre et pour effacer l'esprit critique vis-à-vis de la police antiterroriste chez des lecteuristes de gauche radicale. Toutes les semaines, en une de Mediapart, un nouvel article vient vanter les mérites de la police antiterroriste française et européenne, alors que la parole même des inculpés du 8 décembre y est refusée. En 2019, le spécialiste entre guillemets de l'antiterrorisme, Mathieu Suc, écrivait un article dicté de A à Z par la DGSI qui s'intitulait « Ces revenants du Rojava qui inquiètent les services de renseignement ». Encore une fois, ces revenants entre guillemets témoignent. Un camarade parti en vacances en Amérique du Sud se retrouvait accusé d'avoir essayé de nouer des contacts avec une guérilla colombienne. Un autre fréquentant la ZAD aurait prétendument tiré une fusée éclairante sur un hélicoptère de la gendarmerie. Des dégradations d'antennes téléphoniques, de bornes Vélib ou de fourgons de police nous étaient également associées. Ces fables anxiogènes, parfaitement déconnectées de toute réalité, venaient confirmer ce que nous savions déjà. Jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un coupable idéal, le ministère de l'Intérieur ne renoncerait pas à l'entreprise de diabolisation dont nous faisons l'objet. C'est ainsi qu'une surveillance a été mise en place contre notre ami Libre Flo, inculpé du 8 décembre et fantasmé en chef de groupe par la DGSI. En février 2020, la DGSI déballe sa mélasse de notes blanches et d'accusations secret défense dans un rapport de judiciarisation accablant. Et la justice saute à pieds joints dans cette boue sécuritaire. Le jour même, Benjamin Chambre, premier vice-procureur au parquet national antiterroriste, se saisit de l'affaire et requiert auprès d'un JLD, juge des libertés et de la détention de Paris, l'usage de moyens de surveillance hyper intrusifs qui seront accordés immédiatement par Anne-Clémence Costa, elle-même juge de la liberté de la détention. Des micros dans un camion habité, interception téléphonique, géolocalisation en temps réel, IMC catching, filature, etc. Pendant 2 mois, la DGSI épile leurs moindres mouvements et procède à plusieurs IMC catching dans des espaces militants ouverts au public qui leur permettront d'attribuer des numéros de carte SIM prépayés à des identités par recoupage d'IMC catching. En avril 2020, nous sommes en plein confinement. Plusieurs personnes ont l'opportunité de se retrouver à la campagne dans un grand lieu pour se ressourcer loin de la ville et de son ambiance policière. La plupart ne se connaissent pas et se rencontrent pour la première fois, mais cette petite colonie de vacances va devenir pour la DGSI un camp d'entraînement à la guérilla. Durant 3 semaines, certaines vont faire une après-midi de airsoft. Bingo ! Pour tuer l'ennui et par curiosité, elles vont essayer de confectionner un pétard. Bingo ! Tout le reste de leurs activités, entretien du bois, lecture collective, cueillette de plantes médicinales, soirées jeux, etc., disparaissent pour ne laisser encore une fois que la parole policière et parachever la manipulation des magistrats par l'imaginaire. À la fin du confinement, chacun et chacune reprennent le cours de leur vie de leur côté, vivant dans des régions différentes et suivant leurs projets personnels. La plupart qui s'étaient connus pour la première fois là-bas ne se reverront pas. Qu'importe, toutes les fréquentations de l'ami Libre Flo sont scrutées par les loupes du renseignement. Alors qu'il revoit un ami de jeunesse un peu plus tard, dont la passion et la profession et l'artifice rebelote. Pendant 11 mois, donc, la DGSI va alimenter un dossier rempli d'interprétations à charge qui n'ont d'autre but que de manipuler les juges en jouant avec des clichés et des peurs. La vie des personnes a été disséquée pour n'en retenir que des éléments disparates n'ayant pas de lien entre eux. C'est ainsi que, sans raison apparente, le 8 décembre 2020, à 6h du matin, le RAID et la DGSI débarquent chez 9 d'entre elles. Perquisition, humiliation, arrestation et garde à vue antiterroriste à Levallois-Perret. À partir de là, 7 seront mises en examen, 5 mises en prison, et notre camarade y est encore à l'isolement.
Je te remercie. Je te passe la parole directement pour expliquer ce que vous avez vécu.
Oui, du coup, je fais partie d'une des personnes qui a été arrêtée le 8 décembre et qui a été mise en examen à la suite de ces arrestations. Du coup, c'est dans ce contexte, et alors qu'une enquête était ouverte depuis près de 10 mois, Le 8 décembre, au petit matin, plusieurs équipes bloquaient ma rue et entraient chez moi en fracassant la porte et pour entamer une perquisition qui dura près de 3 heures. Au début, j'ai pas tout à fait compris ou saisi l'ampleur de cette arrestation. J'ai été emmenée tout d'abord au commissariat le plus proche et c'est à ce moment-là, après avoir passé un petit temps en cellule, qu'on est venu me chercher et que j'ai compris que c'était la DGSI qui m'emmenait à Paris. Donc dans les locaux de Levallois-Perret, les locaux de la DGSI. Et du coup, c'est avec un masque opacifié sur les yeux, c'est ceinturé les bras le long du corps et encapuchonné, etc., que j'ai été transportée en train jusqu'aux locaux de la DGSI pour une garde à vue qui dura 3 jours, donc un peu plus de environ 70 heures, avant d'être déférée devant une co-juge d'instruction et puis envoyé en détention provisoire pendant un peu plus de 4 mois et demi.
On va écouter un autre témoignage d'une personne qui faisait partie des 9 personnes arrêtées. Elle va nous raconter sa garde à vue dans les locaux de la DGSI.
Donc je vais tenter ici de vous faire un récit sur la garde à vue en antiterrorisme aux locaux de la DGSI. Je fais partie des 9 personnes qui ont été arrêtées au matin du 8 décembre 2020 pour le chef d'inculpation association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visées par l'article 421-1 du Code pénal. Une définition un peu compliquée, mais en gros, quand on va voir l'article 421-1 du Code pénal, ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Voilà, ça c'est le chef d'inculpation lors de l'arrestation. Je précise que j'ai eu la chance d'être relâchée à l'issue de la garde à vue. Et en fait, je précise aussi que ce que je dis là, c'est mon témoignage, mais peut-être que la garde à vue n'a pas été perçue de la même manière par nous tous et nous toutes qui avons été arrêtés ce jour-là. Et sûrement aussi, la DGSI adapte ses méthodes, la pression qu'elle met en fonction des réactions qu'on peut avoir, en fonction de notre personnalité et en fonction aussi du rôle supposé qu'ils nous ont collé. C'est vraiment mon récit et j'imagine que la garde à vue elle a été un peu différente pour tous et pour toutes. Je passerai les détails de l'arrestation. C'est quand même super violent de se faire braquer par 4 armes à 6 heures du matin. Je passerai aussi les détails de la perquisition. Je vais commencer plutôt au moment en fait, où on m'a amené jusqu'à Levallois-Perret, au côté de la DGSI. Et ensuite, la deuxième chose aussi, c'est que j'ai pas d'éléments de comparaison par rapport à d'autres gardes à vue, par exemple, parce que ça a été ma première garde à vue. Donc, une première, c'était la garde à vue anti-terro. Donc déjà, tout est fait pour te terroriser, pour te mettre dans un état, pour te faire perdre tes moyens. Donc en fait, ils m'ont fait enfiler une genre de camisole et entravée en fait. Donc c'est une genre de camisole qui te bloque les bras le long du corps. Tu peux pas du tout bouger, parce qu'avec tes menottes, tu peux au moins te gratter, enfin tu peux faire 2-3 trucs. Là, tu es vraiment complètement bloqué. Et cagoule blanche sur la tête. Donc tu arrives à discerner quelques formes, mais vraiment tu vois rien du tout. Donc, arrivé à Levallois en voiture, en plus, ils m'ont baissé la tête dans la voiture, baissé la tête sur les genoux pour ne pas voir les plaques d'immatriculation arriver dans le parking souterrain des locaux, voilà, pour ne pas que je puisse voir les plaques d'immatriculation des voitures. Et ensuite, on t'amène dans une cellule. Donc, la cellule, bien sûr, sans fenêtre, on est au moins 4, je crois, ou enfin, on est dans les sous-étages de la DGSI. Donc la cellule, elle est insonorisée, on n'entend pas du tout, d'une cellule à l'autre, on n'entend pas du tout ce qui se passe dans le couloir. Elle fait, je dirais, 8 mètres carrés environ. C'est très froid, enfin c'est propre, mais c'est très froid, tout blanc, avec des néons. D'ailleurs, il fait un peu froid dedans. Je ne sais pas si c'était l'état de stress, mais en tout cas, j'étais congelée pendant 4 jours. Il y a un petit matelas voilà, d'une épaisseur de phalange, un tout petit matelas sur une étagère en béton. Il y a des toilettes à peine cachées. Donc, quand quelqu'un rentre, il doit aller sur les toilettes. Et une caméra qui filme 24 heures sur 24. Même la nuit, en fait, les néons s'éteignent quasiment jamais. Mais de temps en temps, enfin, il y a quelques heures dans la nuit où ça s'éteint. Il y a un interphone aussi dans la cellule qui permet quand même de demander, par exemple, un repas ou de dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Ou voilà. Moi, pour l'exemple, le premier jour, en fait, je n'ai pas mangé pendant une trentaine d'heures parce que entre le moment où j'ai été arrêtée, je suis arrivée au loco de la DGSI, j'ai demandé à manger. J'ai pas eu mon repas, je suis repartie en perquisition parce que j'ai fait une deuxième perquisition dans la journée. Je suis revenue, j'ai été auditionnée jusqu'à tard dans la nuit. Et à l'issue de ma première audition, ils m'ont amené le repas, donc c'est une trentaine d'heures que j'avais pas mangé. Alors je reviens sur la cellule qui a une porte vitrée avec un store intégré à l'intérieur qui permet juste de voir les pieds des gens qui passent dans le couloir. Ça ne te permet pas du tout de voir les visages, mais juste les pieds qui se déplacent. La première nuit, vu que j'avais fait 2 perquis dans la journée, j'ai fini mon audition en dernier. Il y avait les chaussures de chacun qui étaient devant les cellules. Pas trop eu le temps de regarder, mais je me suis dit, tiens, il y a les chaussures. Et dès le lendemain, il n'y a plus jamais eu les chaussures. Donc je pense que ils ont fait exprès de les enlever pour pas qu'on puisse se localiser les uns les autres, se dire dans mon cas, j'ai pu voir une fois mon compagnon revenant de la douche, mais dès qu'ils ont vu que la porte de cellule était ouverte, il y avait son OPJ qui était devant, ils m'ont jeté dans une pièce pour surtout pas qu'on se voit. Voilà, donc c'est vraiment tout est fait pour qu'on se voit pas du tout. Je pense que du coup, je vais arriver au point le plus important qui est les auditions. Donc ça, c'était vraiment le pire. On sent que sa vie, elle est en train de défiler. On se pose 10 000 questions dans la tête. Tu te retrouves avec 2 personnes qui te posent plein de questions sur ton orientation politique, sur tes amis, ta famille, ton couple, tes voyages, ton parcours, les différents lieux de vie, c'est vraiment disséqué sous tous les angles et tu te rends assez vite compte que les personnes qui te posent des questions savent déjà beaucoup sur toi et tu sais, tu te rends compte aussi assez vite que tu étais surveillée et sur écoute depuis un moment. Donc dans mon cas, ils étaient 2 OPJ, un qui était derrière l'ordinateur, qui lisait les questions et qui tapait mes réponses à l'ordinateur, et l'autre qui était plutôt à faire des interprétations un peu de mes réponses, à essayer de relancer sur les questions. Et je me suis aussi fait la réflexion quand même que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière l'ordinateur, enfin, ou une équipe ou quelqu'un, et que des choses arrivaient sur l'ordinateur, de nouvelles questions qui arrivaient un peu en temps réel. Parfois, il montrait l'ordinateur à sa collègue. J'ai eu l'impression d'une équipe un peu derrière qui gérait en temps réel, peut-être selon les auditions aussi des uns et des autres. Ils adaptaient peut-être les nouvelles questions, ce genre de choses. C'est un peu flippant parce que tu sens que tu n'es pas dans une simple garde à vue et qu'il y a vraiment une équipe derrière tout ça. Donc, pendant les auditions, tu es aussi filmé en permanence. Tu comprends vite que tout ce que tu dis, c'est vraiment ancré pour un moment. Ça peut avoir aussi des conséquences sur toi-même, mais aussi sur les autres. Donc, je crois que c'est la pire réflexion que je me suis dit, c'est si je ne serait-ce qu'un détail mal interprété de leur part pouvait alimenter leur scénario complètement dingue, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, et mettre en défaut mon compagnon ou mon pote. Ça a été la pire réflexion que je me suis faite, où je me suis dit, en fait, je préfère ne rien répondre du tout que de risquer de répondre quelque chose et qu'ils vont mal interpréter, interpréter dans leur sens. Et voilà quoi. Donc, c'est à ce moment-là que garder le silence, c'est vraiment devenu une nécessité. Il faut que je garde le silence. Pour l'info, au moment où j'ai voulu arrêter, on va dire, de répondre, je disais non, je veux pas répondre ou ce genre de choses. Et en fait, ça marchait pas, ils me lâchaient pas du tout. Ils insistaient au contraire encore plus. J'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il fallait vraiment dire cette phrase « je garde le silence ». Et à partir du moment où je l'ai dit, il y avait plus de problème. Ils m'ont lâché et cette phrase a été voilà, respectée pour ce qu'elle est un droit. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment cette formule-là qu'il faut utiliser et pas de « non, je veux pas » ou « non, je répondrai pas ». Ensuite, sur le type de questions, justement, au début, c'est des questions très anodines sur nom de famille, frères et sœurs. Enfin, du coup, tu réponds parce que c'est des questions tellement anodines que ça paraît logique de répondre. Puis, c'est de plus en plus poussé, de plus en plus orienté, voire même des questions qui ne te concernent pas, en fait, sur relation entre deux personnes. Tu ne fais pas partie de ces deux personnes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit non, mais je peux pas répondre à des choses qui ne me concernent même pas. Donc là, ils insistent, ils ne cachent pas. Même s'il y avait une espèce de. J'essaie d'être un peu sympa au début et assez vite, en fait, ils peuvent changer de comportement pour essayer de te faire parler. Et sinon, il y a quelques exemples de questions aussi que j'ai tenté de me rappeler. Un petit résumé du type de questions qu'il y avait, surtout le premier soir, la première audition, ça s'appelle La Grande Identité. Donc, il y a « Que penses-tu du drapeau français ?»« Que penses-tu de la politique de Macron ?»« De la politique internationale de la France ?»« Que penses-tu de la lutte des classes ?»« Est-ce que tu es antifa ?»« Que penses-tu d'un coup d'État, d'une révolution, du chaos, du survivalisme, du Black Bloc ?» Est-ce que tu as participé à des manifs? Lesquels, quand et avec qui? Que penses-tu de la violence en manif? Des dégradations? De quel parti politique te sens-tu le plus proche? Est-ce que tu es activiste, militante? Que penses-tu des flics? Que veut dire ACAB? YPG, PKK, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais que la Turquie les considère comme des terroristes et qu'en penses-tu? Où as-tu voyagé? Pourquoi en Grèce et en Italie? Est-ce que pour activisme européen? Est-ce que tu utilises Signal? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un l'a installé pour toi? Qui t'en a parlé? Et pareil pour le logiciel Tor. Voilà, donc après, c'est quelques questions parmi des centaines, mais c'est pour avoir un petit aperçu du type de questions. Les auditions, elles durent entre 3 et 4 heures en moyenne, en présence de ton avocat. Tu as environ 2 auditions par jour. Enfin, pour ma part, j'en ai eu 2 par jour. Donc, tu n'as plus vraiment de notion du temps parce que tu fais une audition de 3-4 heures, tu as une pause, tu ne sais pas de combien de temps, puis tu repars. Tu essaies de dormir un peu entre les deux, mais bizarrement, à chaque fois que tu t'assoupis un peu, bah, on vient te voir soit pour signer un document, soit pour repartir en audition, soit pour enlever ta capuche du visage parce que sur la caméra, ils ne voient pas ton visage. C'est très galère pour dormir. La spécificité de la garde à vue en antitéro, enfin je ne sais pas si c'est une spécificité, mais ça m'a paru en être une, c'est qu'on voit son avocat seul 30 minutes par jour, le matin, avant la première audition. Et ensuite, on ne peut plus du tout le consulter, on ne peut plus du tout communiquer. Pendant les auditions, il est à côté de toi, mais impossible de parler, de se concerter, même après l'audition ou entre les auditions. Et dans mon cas, j'ai changé en cours de journée, je suis passée de commis d'office à un avocat choisi. Et pareil, j'ai pas eu d'entretien, de second entretien. Donc en fait, j'ai commencé avec un avocat choisi en cours de journée sans avoir eu d'entretien, ce qui est un peu bizarre quand même. Quelques exemples, j'avais noté quelques exemples de leur méthode. Donc il y a intimidation en te hurlant dessus, en mode vénère. Te montrer des écoutes avec des bouts de phrases reconstitués, avec 3 petits points entre. Donc en fait, tu as une phrase, 3 petits points et une autre phrase. Donc, tu ne sais pas du tout le contexte, tu ne sais pas du tout s'il y a eu 10 minutes, un quart d'heure entre les deux phrases. Tu ne sais pas non plus si c'est une conversation téléphonique ou une sonorisation. Pas de date, rien. Ensuite, il y a des méthodes un peu pour te faire craquer, te déstabiliser en parlant de l'état mental de ton compagnon qui va pas bien, qui subit la même chose à quelques mètres de là dans une autre salle d'audition. Utiliser des choses intimes et personnelles aussi, appuyer là où ça fait mal, voilà, pour voir comment tu réagis. Des coups de pression en dehors des auditions, donc en dehors de la présence de l'avocat. Moi, j'ai eu plusieurs coups de pression pendant des signatures le soir pour faire signer des documents. Ils en profitaient pour me dire, en fait, si tu gardes le silence, tu vas être déféré. Il faut changer de... Voilà, si tu veux pas être déféré, si tu veux pas aller en prison, il faut pas que tu gardes le silence. C'est des petits coups de pression. J'en avais parlé à l'avocat. C'est aucune preuve. Voilà, mais normalement, ils ont pas le droit de faire ça. Petit à petit, on perd vraiment ses moyens. On sait plus où est-ce qu'on en est et on se sent faible, en fait. Enfin, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête, quoi. La gravité du chef d'inculpation fait aussi que voilà, en fait, il parle assez vite de nombre d'années de prison que tu pourrais faire. Enfin, voilà, c'est des choses qui font gamberger, quoi. Aussi, un truc qui m'a marqué, c'est des propositions. Donc, en fait, tu réponds pas trop ou vaguement. Et ils font toute une proposition de phrases. Pour moi, par exemple, c'était sur le sujet du Covid. Donc, enfin, je m'en foutais un peu. Je dis, alors oui, pourquoi pas, oui. Et à la fin, tu dis oui, t'acquiesces, parce qu'en fait, tu dis ouais, vas-y, ouais. Et en fait, sur le PV, c'est pas du tout marqué de cette manière-là. C'est marqué comme si c'était toi qui avais avancé toute la phrase, alors qu'en fait, t'as juste acquiescé à une de leurs propositions. C'est un peu flippant de se dire que voilà, tout ce que t'acquiesces, c'est par du principe que ça vient de toi. Donc voilà, ça, c'était un peu tous les points que j'ai retenus par rapport aux auditions. Et donc le vendredi matin, donc on a été arrêté le mardi matin, le vendredi matin à 11h, après 77 heures de garde à vue, moi j'ai été libérée. On m'a de nouveau mis une cagoule sur la tête, parce que je repassais par le parking souterrain avec les fameuses plaques d'immatriculation des personnes qui travaillaient à la DGSI, et on m'a lâchée au métro, le plus proche. Et mon compagnon, lui, est inculpé. Il a été placé en détention provisoire. Et il vient tout juste d'être libéré après 11 mois derrière les barreaux en contrôle judiciaire assez strict.
Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est donc un témoignage qui vient de Paris. On va vous donner la parole très bientôt. Mais tu voulais revenir un peu sur le déroulé de l'affaire, sur la suite de la garde à vue
Oui, c'est ça. Alors, du coup, à l'issue de ces gardes à vue, on a été 7 personnes sur les 9 arrêtées à être mises en examen, donc avec ces chefs d'inculpation, association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes, plus pour certaines d'entre nous, un refus de donner ces codes de chiffrement, c'est-à-dire... les codes de téléphone ou d'ordinateur ou ce genre de choses. Et donc, voilà. Sur les 7, 2 ont été placés sous contrôle judiciaire directement. Et 5 d'entre nous sont partis en détention provisoire. Alors, ce qu'il faut savoir avec la détention provisoire en France, c'est que c'est vraiment un moyen largement utilisé... comme punition préventive. Il y a un tiers des personnes incarcérées en France qui sont en détention provisoire, ce qui fait déjà un sacré nombre. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus qui, je trouve, montre très bien ce ton et qui, bien sûr, n'apparaîtra jamais sur aucun des PV qui restent au dossier, mais donc, lors de mon déferlement devant la juge d'instruction, une des raisons pour justifier de ma mise en examen et du fait de m'envoyer devant le juge des libertés et de la détention, parce qu'il faut quand même pas trop se salir les mains soi-même pour décider de mon placement en détention provisoire ou pas. Donc, la raison invoquée, c'était « va falloir revoir votre comportement en garde à vue ». Voilà. Et donc dans détention provisoire on a été deux à passer environ 4 mois et demi. Il y a une personne qui est sortie mi-octobre et une personne qui est sortie début novembre. Donc actuellement, il ne reste plus qu'une personne en détention. Et on a connu des conditions de détention qui sont assez particulières, parce qu'en fait, au sein de la prison, qui est déjà un monde répressif par excellence, il y a encore tout un panel de mesures d'autant plus répressives qui peuvent vous être appliquées. Et notamment, le statut terreau en comprend certaines, notamment des interdictions potentielles de travail, enfin systématiques même de travail, des interdictions potentielles d'activités communes avec d'autres détenus. Et il y a aussi le statut DPS, donc de détenu particulièrement surveillé, qui comprend aussi tout un panel de mesures comme des réveils fréquents la nuit, c'est-à-dire qu'on vient briser ton sommeil pour créer une fatigue, etc., même si les raisons invoquées sont ta sécurité ou la prévention au suicide. Concrètement, ça a beaucoup d'autres effets. Voilà, des fouilles au corps systématiques, en entrée, en sortie de cellule, le fait d'avoir plusieurs matons ou gradés, donc soit le statut de plus 1, soit juste le statut 2, pour t'ouvrir la cellule, etc. Et puis il y a tout un panel aussi d'outils de stigmatisation. Par exemple, il y a des cartons de couleur qui vont être placés sur ta porte. Par exemple, tu peux avoir le carton rouge ou le carton jaune. Ça dépend un peu de l'intensité de la surveillance qu'on place sur toi. Mais en fait, il faut savoir qu'au-delà du fait que ça sert soi-disant de repère au personnel pénitentiaire pour savoir quelles mesures adopter ou mettre en place avec toi, c'est aussi des signes distinctifs visibles par toutes les autres détenues et qui impliquent aussi forcément un certain nombre de questions, un certain regard sur toi, etc., etc. Et du coup, c'est-à-dire que quand t'es pas en isolement, parce qu'on a tous connu, tous et toutes connu un petit temps d'isolement en arrivant en détention provisoire. Donc il y a un copain qui est en isolement officiel, qui est en quartier d'isolement, et puis il y a des isolements officieux qui peuvent être mis en place, ce qu'on a aussi tous un peu connu. Et c'est-à-dire que de la même façon, moi, quand je suis arrivée en détention provisoire, pendant 2 semaines, j'avais pas du tout le droit d'être en contact avec d'autres détenus, d'être en promenade avec d'autres détenus, de prendre la douche avec d'autres détenus. Et ce qui fait aussi qu'à chacun de mes déplacements, tous les couloirs de la prison étaient bloqués. Donc que ça communiquait au talkie-walkie pour se prévenir de où j'arrivais, quel couloir j'empruntais, de manière à ce que tout soit verrouillé. Ce qui crée aussi vraiment des processus complètement déshumanisants qui sont assez terribles à vivre. Et quand tu arrives en promenade dans ces conditions, avec ton carton rouge sur la porte, pour la première fois en n'ayant rencontré encore jamais personne, autant dire que ça crée tout un lot de questions, etc. Voilà, c'était juste un peu pour replacer le déroulé de ce qu'on a vécu, le nombre de mois de détention qu'on a vécu chacun chacune et les mesures auxquelles on s'est trouvé confronté pendant ces détentions.
Du coup, je vais passer la parole à Paris. Vous nous entendez?
Ouais, oui, très bien.
Salut.
En direct du LAP.
Ouais, donc en direct du lycée autogéré de Paris. C'est la deuxième fois que vous êtes en direct de cet endroit. On les remercie aussi de permettre cette émission. Vous vouliez nous parler de la chaîne pénale antiterroriste?
Ouais, tu m'entends bien?
Ouais, vas-y.
Ouais, du coup, ouais, revenir un peu en fait sur la constitution du parquet national antiterroriste et les quelques acteurs, donc procureur, juge d'instruction et juge des libertés. Du coup, le procureur, en fait, tous, ça, c'est pas très différent entre la chaîne pénale classique et l'antiterrorisme. Le procureur, lui, représente les intérêts de la société et de l'État et du pouvoir exécutif par lequel il est nommé, en fait. Et du coup, il s'occupe de poursuivre toutes les infractions, de plaider contre les mises en examen En gros, c'est l'avocat de la France et du pouvoir partout et tout le temps, quoi. Le procureur général antiterroriste, lui, il est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, donc il fait que ça. Et il reçoit des infos de tous les procureurs locaux. Et il bosse surtout avec la DGSI et une grande partie de la police judiciaire dès qu'il constate un truc chez eux qui est lié au terrorisme. Du coup, en matière terroriste, il y a deux chambres qui ont été créées, en fait, et pas une seule. Il y a le parquet antiterroriste, donc le procureur antiterroriste, qui est très lié avec la DGSI, et qui peut saisir l'autre chambre, qui est la chambre d'instruction antiterroriste, donc le juge d'instruction, quoi. Lui, il est nommé par le gouvernement aussi, mais il peut être refusé par le conseil de la magistrature, le pouvoir judiciaire. Donc, il est un peu moins sous l'autorité du pouvoir exécutif que le procureur. Il suit beaucoup plus les directives de la police. Et c'est pour ça, par exemple, dans cette histoire, qu'il a fait appel de la libération d'un des inculpés qui avait été décidé par le juge d'instruction. Du coup, le juge d'instruction, il gère l'enquête, il décide du statut des personnes concernées, mises en examen, témoins assistés, etc. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Et il peut ordonner tout ce qui est convocation par mandat, perquisition, expertise, etc. Et du coup, les intrusions chez les personnes, comme ça a été le cas. Et il ne peut pas décider d'une détention provisoire. Par contre, à la fin de l'instruction, c'est lui qui décide du non-lieu ou pas, ou d'un renvoi de l'affaire devant le tribunal. Celui qui décide de la détention provisoire, c'est le juge des libertés. Du coup, lui, il ne fait pas partie du parquet antiterroriste officiellement. Et il va être mobilisé pour du coup statuer sur les détentions provisoires. Et par contre, après, dans le cadre de ces détentions, les détenus peuvent le saisir aussi de manière régulière dans le cadre d'une DML, la demande de mise en liberté. Après, même s'il a un joli nom de juge des libertés, ça reste aussi le juge de la détention. Et en fait, il bosse étroitement avec le juge d'instruction. Et du coup, il se réfère beaucoup à ce que le juge d'instruction lui dit, quoi. Et voilà, quoi. Voilà pour la constitution des acteurs de ce truc-là.
Merci. On revient avec vous tout à l'heure. On va faire une pause musicale. Juste, je précise, les pauses musicales ont été choisies par un camarade inculpé, lui aussi, dans cette affaire du 8 décembre. Et c'est sa manière de prendre la parole ou de participer à cette émission.
Hüner ve izin, Leydu hem du ve izin, hem hüner ve
On va écouter maintenant le témoignage qui vient de Toulouse et qui raconte la situation de Libre Flo, qui est incarcéré depuis bientôt un an et depuis bientôt un an à l'isolement. On écoute leur témoignage, c'est le comité de soutien de Toulouse.
Salut. Eh ben, du coup, moi, je vais vous parler des conditions d'isolement et de détention de Libre Flo, de ma place de proche et de soutien. On l'appelle Libre Flo parce que c'est le pseudonyme qu'il a choisi dans les lettres qu'il a rendues publiques. Il est enfermé, en fait, à Bois d'Arcy, dans la banlieue de Versailles, depuis, c'est les arrestations du 8 décembre. Et bien qu'il ait aucun antécédent avec l'administration pénitentiaire, il se trouve qu'il a tout de suite été mis à l'isolement. Sur des motifs qui sont un petit peu douteux, c'est-à-dire uniquement par rapport à ses chefs d'inculpation. Du coup, ce qui nous a posé question, c'était que ces motifs-là ne respectaient pas les circulaires du 14 avril 2011 concernant l'isolement, qui stipulent bel et bien qu'on ne peut pas mettre à l'isolement quelqu'un pour les faits qui sont reprochés, mais uniquement pour des raisons de sécurité, etc. Et d'autant plus que lors des renouvellements, les arguments disant que pour Libre Flo, il n'y avait rien à reprocher quant à son mode de vie, son comportement avec l'ensemble du personnel, le respect des règles, etc. Tout cela n'a pas été du tout pris en compte et donc on reste sur un renouvellement trimestriel de son isolement uniquement sur les faits qui lui sont reprochés. On rappelle du coup qu'il est prévenu, c'est-à-dire que l'instruction est en cours, que donc les chefs d'inculpation qui courent sur lui il n'a pas été condamné pour ça à l'heure actuelle. Et donc, du coup, ça pose aussi la question de la présomption d'innocence dans cette situation. Voilà, donc cet isolement, il a été renouvelé sans surprise par Dupond-Moretti dernièrement, là, cette semaine. Je dis sans surprise parce que, en fait, depuis le temps que ça dure et que le pote se retrouve à devoir expliquer sa situation, etc., et qu'il ne voit rien bouger, il est devenu assez lucide sur cette mascarade. Et en fait, ça nous prouve aussi à quel point cet isolement, en fait, c'est comme pour la plupart des personnes qui vivent l'isolement en tôle, un moyen de pression pour essayer de détruire les personnes détenues, leurs liens avec l'extérieur, et c'est une forme de torture blanche. Du coup, quand on parle de torture blanche, en fait, on se réfère aux conditions de détention qui sont un peu spéciales et qui s'appliquent là pour les isolés, mais qui en fait la torture blanche, on peut aussi en parler pour les détenus de manière générale, mais là ce qu'il vit est très particulier dans le sens où donc quand on est à l'isolement, on est enfermé en cellule seul. Alors voilà, ça veut aussi dire qu'on est en promenade seul. Et qu'on n'a pas d'activité avec des pairs, on n'a pas d'échange, on est H24 seul. Et donc les seuls échanges qui peuvent avoir lieu, c'est avec les matons. Autant dire que ça ne met pas forcément à l'aise. Voilà, et donc ça pour la personne qui le vit, ça a des conséquences. Ça entraîne pas mal de troubles, on va dire, sensoriels, mais aussi au niveau de la mémoire, des pertes de mémoire, une difficulté à accéder en fait à ses fonctions cognitives, à être au clair sur ce qu'on est en train de vivre, etc., sur ce que nous évoquent les proches, etc. et aussi des douleurs psychosomatiques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que Libreflow évoque dans les deux dernières lettres qu'il nous a écrites et qu'on a publiées donc sur le blog de soutien aux inculpés du 8 décembre. Je le rappelle, soutien 812.net. On invite vraiment tout le monde à lire ces lettres et à les diffuser. Parce qu'en tout cas, elles viennent révéler et résonner chez beaucoup sur ce que sont ces conditions de détention à l'isolement. Et d'ailleurs, on apprécie énormément l'envolée, en tout cas, a republié dans leur livre qui vient de sortir, La peine de mort n'a pas été abolie, des extraits de cette lettre pour montrer à quel point... cela résonnait et parler donc de la situation de Libreflow, c'est aussi parler de la situation de toutes les personnes qui subissent l'isolement en prison. Pour finir aussi sur donc un petit peu le fonctionnement de la tôle par rapport à cet isolement, il se trouve que en fait les médecins sont censés passer régulièrement, donc deux fois par semaine, visiter les personnes à l'isolement. Voilà, ça se passe de façon très rapide et de toute manière, quoi qui est exprimé dans ces moments-là n'est absolument pas pris en compte. Et aussi la vie médicale qui est censée donc être donnée au bout de plusieurs mois d'isolement n'en est pas un, en fait, là, dans la situation du pote en question. C'est simplement, tout va bien, voilà, et il ne prend absolument pas en compte tout ce que peut décrire Libreflow de ce qu'il vit. Et ça nous montre là, en fait, à quel point, cette torture blanche-là dont on parle, elle est complètement banalisée, elle fait complètement partie du fonctionnement normal de la prison et que c'est complètement OK, en fait, pour n'importe qui travaille au sein de l'administration pénitentiaire. Donc voilà, donc du coup, bien heureusement, il a quand même le droit d'avoir de la visite de ses proches. Et bon, voilà, ça a mis pas mal de temps avant qu'il y ait du monde qui puisse venir le visiter, hein, puisqu'au départ, c'était uniquement réservé à sa famille. Et donc aujourd'hui, on est un certain nombre à pouvoir se relayer et à lui rendre visite, à faire donc énormément de kilomètres, puisque donc il est enfermé loin de nous, loin de ses proches. Et donc là, dernièrement, voilà quelque chose qui vient d'arriver sans trop d'explications, sans trop savoir d'où cette nouvelle règle vient. Mais on nous demande que pour chaque colis qui soit déposé, il faut qu'il demande au préalable l'accord pour les livres et les CD que les visiteurs viennent déposer au colis. Donc ça veut dire que plus d'une semaine avant le parloir en question, lui doit transmettre un papier. Donc ça veut dire qu'avant ça, il faut que nous, on lui transmette par téléphone quels sont les livres et CD qu'on va lui transmettre. Donc c'est une organisation un peu d'enfer. Et en fait, il y a eu des livres, malgré les accords qui avaient été donnés, qui ont mis plus de 3 semaines avant d'arriver, des CD qui n'arriveront donc jamais. Et quand on demande, mais expliquez-nous en fait cette règle, quelle est-elle, d'où elle vient, on n'a aucune réponse, personne ne peut rien nous expliquer. Du coup, en fait, ça provoque une sorte de parano, parce qu'on se dit, mais pourquoi cette règle, elle arrive là, comme ça, d'un coup? Est-ce que c'est lié à son statut à l'isolement? Est-ce que c'est lié à la direction de l'administration pénitentiaire? Est-ce que c'est lié au magistrat? Est-ce que c'est lié à cette affaire, au fait qu'il y a des gens qui viennent lui apporter toutes les semaines des livres décédés? Enfin, c'est assez incompréhensible. Et comme en plus, lui, il ne peut pas échanger avec les autres détenus en isolement, on ne sait pas, on patauge. Et tout ça nous fait beaucoup de stress, quoi. Et l'autre chose que je voulais évoquer par rapport à la parano aussi, c'était ce fait que, en fait, tout ce qui est de l'ordre des échanges est soumis à une surveillance. Ça veut dire que on sait que tous les appels peuvent être enregistrés, les parloirs peuvent être enregistrés, tout le courrier passe par le bureau du juge. Et en fait, ça fait qu'il y a un petit flic qui commence à s'installer dans nos têtes et qu'on n'est pas à l'aise pour discuter de choses tout à fait normales, parce que quand on comprend que tout ce qui est dit est complètement déformé avec ce prisme de l'antiterrorisme, eh ben en fait, on n'ose plus rien dire parce que tout est déformé et ça devient assez grave, quoi. Voilà, ça fait un an que ça dure tout ça, qu'on galère, qu'il en chie, qu'on se soutient entre proches et on aimerait que ça cesse. Voilà, aujourd'hui, Libreflow, c'est le dernier à être encore enfermé. On pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison, si on suit la logique de l'instruction, qu'il soit encore enfermé, puisque tout le monde a été entendu. Donc, on exige sa libération le plus vite possible. Et on demande un petit peu à toutes les personnes qui sont partout autour de nous et qui entendent parler de cette affaire, d'exprimer sa solidarité et de la montrer, de faire des petites démonstrations de solidarité partout autour de soi pour sa libération et pour les inculpés du 8 décembre. Merci.
Et du coup, juste pour vous informer, il y a une campagne d'action qui a été lancée là, qui s'appelle Parlons Justice, action de soutien contre l'isolement. On a ramené des cartes postales en fait, qui sont adressées directement à Éric Dupond-Moretti, qui a renouvelé son isolement, qui a signé hier ou avant-hier. Et du coup, les cartes postales, elles sont soit téléchargeables sur Internet, soit il y en a là, vous pouvez vous servir aussi. Il y a juste à les timbrer et à les envoyer à Dupond-Moretti. En fait, c'est un peu des rappels à la loi, donc il n'y a que des textes de loi qui rappellent que son isolement, il est complètement illégal. Et voilà, c'est un peu le seul truc, c'est pas grand-chose, quoi, mais ça peut être chouette quand même si vous y participiez.
Du coup, on revient avec vous à Paris, vous nous entendez toujours ?
Ouais, toujours, ouais.
C'est parfait. Je te laisse la parole.
Je voulais juste revenir en fait sur le statut DPS qui a été très bien détaillé tout à l'heure par la camarade inculpée. Je voulais juste revenir sur le fait qu'en fait, quand certains inculpés ont demandé via des chefs gradés ou carrément au chef de leur bâtiment s'ils étaient sous statut DPS, donc détenus particulièrement surveillés, on leur a répondu que non. Alors qu'ils avaient tous les points, ils avaient toutes les conditions de quelqu'un qui est en DPS, donc seul en cellule, deux surveillants tout le temps, les fouilles corporelles à nu après chaque parloir. Donc ça donne l'impression qu'en fait l'administration pénitentiaire n'est pas très fière en fait de ce statut de DPS et qu'ils veulent pas spécialement dire que oui, t'es bien en statut DPS. Ça a été assez flou là-dessus, mais ils n'ont jamais voulu leur dire sous quel statut ils étaient. Et donc, on avait fait quelques recherches, nous, de notre côté, sur les cas de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et en fait, c'est souvent pointé du doigt, du coup, par la Cour, parce que ce statut porte atteinte à la dignité humaine dans certaines conditions, notamment sur les fouilles corporelles à répétition. Donc voilà, c'était juste pour rappeler ça, que c'était quelque chose qui était quand même pointé du doigt assez souvent.
Merci. Et pour terminer sur les conditions carcérales, on va écouter un poème écrit en prison et enregistré par le camarade depuis qu'il est sorti.
Poésie de couloir pour nos cris dans les miroirs. Écrire pour penser et dévoiler ses mots. N'oublie pas de penser à réfléchir pour ne pas finir au cachot. Oh toi, prison, ton cœur de brique me laisse de marbre. J'attends ta destruction pour m'asseoir au pied d'un arbre. Ulcère je suis, saignant dans tes entrailles de fer et de ciment, rêve de ce jour que celles et ceux que tu appelles cancer du système dégueuleront. Oh toi, liberté, je rêve de toi, parfois te parle. J'écris ton nom sur un murmure ou bien encore au fond de mes cellules et je fantasme de pouvoir t'approcher, te caresser et de t'embrasser. Je regarde par la fenêtre et ma vue est quadrillée, horizon perdu et mal encadré, tableau noir et peinture effacée dans un esprit d'une enveloppe bétonnée. Un clin d'œil au P4 et une spéciale dédicace aux prisonnières et aux prisonniers et à toutes et tous les isolés de France et d'ailleurs.
On va passer sur un point juridique. Je te laisse la parole rapidement avant qu'on laisse parler les copains de Paris.
Oui, voilà. C'était juste pour dire que, du coup, au jour d'aujourd'hui, les 7 personnes qui sommes en examen, donc on est toujours sous enquête. On n'a pas vraiment de notion de temps. C'est un peu aléatoire le moment où ça prendra fin. Et que, du coup, on a toujours une commission rogatoire qui est ouverte, autorisant tout un panel de techniques de surveillance, notamment des filatures, des écoutes, des perquisitions. Et que dans le cadre de cette commission rogatoire, il y a eu aussi tout un tas d'auditions de témoins qui ont eu lieu ces derniers mois. Et donc, notamment, nos familles et nos proches ont été convoqués par la DGSI pour différents interrogatoires. Voilà.
Je vous laisse, Paris, je vous laisse faire un petit point juridique.
Ouais. Ouais, du coup, c'est pour revenir un peu en détail du coup sur ces convocations en fait, parce que pendant toute cette année de répression de partout, on n'était pas très au clair sur quels étaient les statuts de toutes les personnes convoquées quoi. Et du coup, ça peut être aussi utile pour d'autres personnes de refaire un point là-dessus. En fait, au début, on croyait qu'on était en audition libre. En fait, l'audition libre, c'est un statut relativement précis, mais un peu flou quand même. On est en tant que suspect libre. Du coup, on est suspecté quand même et on est convoqué par les flics ou la DGSI. On a le droit à un avocat, mais il peut être refusé. Et ça peut finir par une garde à vue. C'est différent du deuxième statut qui est le statut de témoin assisté, où là, on est convoqué par un juge d'instruction. Et on n'est pas témoin, on est témoin assisté. En fait, c'est qu'on est suspect aussi parce qu'il y a des indices qui peuvent faire croire à notre culpabilité. Là, par contre, on a toujours un avocat, quoi. Et ensuite, c'est au juge d'instruction de choisir si tu es témoin assisté ou mis en examen. Mis en examen, donc ça, on connaît mieux. Donc, c'est, voilà, il y a des indices graves de culpabilité. Et en gros, tu es dans la merde. Et c'est différent, enfin, du statut de témoin. Donc là, dans le cas des convocations des proches, c'était surtout dans le statut de témoin. Où là, ça peut être devant un flic ou un juge. Tu n'as pas d'avocat. Et c'est après, si tu poses un serment. Mais par contre, tu n'es pas suspecté, tu n'es pas impliqué dans l'affaire, tu risques pas de finir en garde à vue, etc. Voilà, c'était pour une petite précision, c'est tout.
Et du coup, on va peut-être aussi introduire une lettre qui a été écrite collectivement, qu'on a envoyée début septembre au juge d'instruction.
Oui, j'allais justement parler de ça. Donc c'est effectivement une lettre qui a été écrite collectivement pour réagir à ce qui s'était passé. Donc c'est la lettre au juge d'instruction Herbeau qui a été envoyée à la fin de l'été.
Nous, famille et amis des inculpés du 8 décembre 2020, déclarons par la présente notre refus de nous soumettre aux auditions de la DGSI. Nous sommes convaincus que la façon de procéder de la DGSI n'est pas de nature à vous apporter les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité, mais plutôt à valider un scénario préécrit depuis des années. Par cette lettre, nous attestons que notre refus est définitif au vu des méthodes malhonnêtes de la DGSI auxquelles plusieurs d'entre nous ont déjà eu à faire face. Depuis plus de 8 mois, nous vivons sous le poids constant de votre instruction, dont la longueur se traduit par un grand nombre de violences sur les mis en examen et sur nous-mêmes, et fait perdurer l'acharnement carcéral sur nos proches toujours détenus. Les commissions rogatoires que vous avez récemment ordonnées représentent pour nous un énième anéantissement de nos vies privées. Vous avez depuis le début de l'enquête mis en place des dispositifs de surveillance intrusifs, violant pendant plusieurs mois l'intimité de nos familles, de nos cercles d'amis et de nos couples, menant à l'écoute de nos moindres discussions jusque dans nos foyers et nos véhicules. Nous refusons que le moindre détail de nos vies soit disséqué une fois encore par la DGSI, d'autant moins si cela est fait dans le but d'alimenter une construction policière et de justifier la criminalisation de nos enfants, amis, frères et sœurs. Vous qualifiez nos proches de terroristes, ayant l'intention de fomenter un projet violent. La seule violence que nous percevons dans cette affaire est le sort qui leur est réservé. Depuis le départ, la DGSI a fait preuve d'une forme de partialité qu'elle n'a cessé de démontrer depuis, usant d'interprétations subjectives et mensongères basées sur les maigres éléments qu'elle avait en sa possession pour criminaliser les inculpés. Elle a par la suite mené des perquisitions violentes, humiliantes et traumatisantes, impactant les personnes les ayant vécues, ainsi que celles ayant peur de les vivre. Elle a procédé à des menaces d'agression sexuelle pour prélever de l'ADN lors de la garde à vue. La DGSI a également profité de notre ignorance du droit pour effectuer des auditions libres, sous la menace, notamment de garde à vue, proférant des insinuations déplacées, manipulant nos propos et omettant toutes les nuances apportées qui venaient un tant soit peu décrédibiliser leur scénario. Nous supposons que votre démarche est de faire émerger de ces entretiens un aperçu le plus exhaustif possible de la situation de chacun chacune. Néanmoins, au vu de leur méthode, il nous est impossible, en tant que parents, amis, frères et sœurs des inculpés du 8 décembre 2020, de nous soumettre à des auditions auprès des services de la DGSI. Convaincus que leur place n'est pas derrière les barreaux, nous demandons la libération sans délai des trois personnes toujours incarcérées. Signé, les familles et amis des inculpés du 8 décembre.
Merci bien. Et du coup, on va terminer cette deuxième partie de l'émission. Tu voulais parler des enjeux qui sont à venir, là, rapidement.
Oui, voilà. En ce moment, judiciairement, on a quelques enjeux, notamment vis-à-vis des nullités qui ont été déposées par nos avocats. Donc, les nullités, c'est un peu tout ce qui concerne les procédures judiciaires, la manière dont elles ont été faites, leur légalité, etc. Et du coup, comme on est un peu restreint dans le temps aujourd'hui, je ne vais pas détailler là-dessus, mais c'était pour annoncer qu'on allait prochainement communiquer là-dessus, puisqu'il y a des enjeux de taille sur ces nullités et qui ne concernent vraiment pas que nous, qui ont un véritable impact dans le droit et l'évolution de l'antiterrorisme, et notamment à savoir est-ce que la DGSI est toute permise ou pas.
Pour cette dernière partie de l'émission, et vous l'aurez sans doute compris, on va parler d'antiterrorisme et on va parler de justice préventive. Je te laisse la parole.
Merci. Et bah, du coup, je vais essayer de faire une espèce de synthèse sur quelques analyses de base sur comment fonctionne l'antiterrorisme, au moins dans le droit et un peu historiquement. Et voilà, bon, c'est pas parfait non plus. Hein. On a tendance à beaucoup parler de l'antiterrorisme policier, alors que ses origines sont avant tout militaires et industrielles. Les doctrines qui constituent l'antiterrorisme ne datent pas d'hier. Elles ont été théorisées par l'armée française dans les années 50 sous l'appellation DGR, Doctrine de la guerre révolutionnaire. Pendant la guerre d'Indochine puis d'Algérie, les élites militaires françaises vont poser les bases des stratégies de contre-subversion, de guerre psychologique et de défense globale. Il est alors important de garder à l'esprit que tout ce que l'on dénonce depuis l'état d'urgence jusqu'à la sécurité globale était déjà expérimenté dans les colonies françaises et a largement été théorisé suite à la Seconde Guerre mondiale, inspiré notamment par des techniques mises au point par le Troisième Reich. Et toutes les guerres dans lesquelles la France est impliquée aujourd'hui, à l'instar de toutes les puissances impérialistes, sont des guerres contre le terrorisme. Donc, les premières victimes de l'antiterrorisme sont les populations civiles et insurgées des pays sous occupation impérialiste. Concernant la France, ce sont entre autres le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, la Kanaky, etc. La Martinique et la Guadeloupe actuellement aussi. Au nom de l'antiterrorisme, les États-Unis et leurs alliés ont largué plus de 326 000 bombes et missiles depuis 2001, dont plus de 152 000 en Irak et en Syrie. Cela représente une moyenne de 46 bombes et missiles par jour pendant près de 20 ans, entraînant un bilan humain monstrueux. Plusieurs centaines de milliers de morts en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. Des villes comme Mossoul en Irak, 2 millions d'habitants avant la guerre, rasées à 80%. Plus de 37 millions de personnes déplacées. Au nom de l'antiterrorisme, des musulmans et musulmanes ainsi que des militantes écologistes ont été massivement assignés à résidence depuis 2015. Au nom de l'antiterrorisme, plus de 5000 perquisitions administratives avaient été menées après 2 ans d'état d'urgence. Au nom de l'antiterrorisme, on interdit la lutte contre l'islamophobie, comme en témoigne la dissolution du CCIF. Au nom de l'antiterrorisme, des enfants de 10 ans avaient été terrorisés à 6 heures du matin par des policiers cagoulés et en armes, avant d'être retenus et interrogés pendant 11 heures au commissariat. Au nom de l'antiterrorisme, plus de 500 personnes aujourd'hui subissent la prison dans la prison. Au nom de l'antiterrorisme, l'État français maintient une dictature au pouvoir au Tchad et bombarde la guérilla. Au nom de l'antiterrorisme, l'Union européenne construit des camps de concentration pour exilés, aux frontières de l'Europe. Mais qu'est-ce que le terrorisme au juste ? Dans le sens commun, ce sont des attaques meurtrières contre des innocentes. mais dans le droit international, c'est beaucoup plus flou. Pour François Dubuisson, prof de droit international à l'Université libre de Bruxelles, la notion de terrorisme reste largement insaisissable, et les éléments définitionnels qui en sont donnés demeurent extrêmement flous, ce qui octroie une importante marge d'appréciation aux États dans son utilisation, qu'il s'agisse de justifier des régimes juridiques dérogatoires et exceptionnels ou de stigmatiser un ennemi dans une perspective politique. Le terrorisme, dans le droit français, recouvre un ensemble très divers de délits et de crimes déjà sanctionnés par la loi. L'article 421 du Code pénal énumère les faits qui peuvent relever du terrorisme. Atteinte volontaire à la vie, à l'intégrité de la personne, enlèvement et séquestration, détournement d'un moyen de transport, le vol, l'extorsion, les destructions, les dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique, en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matière nucléaire, infractions de blanchiment d'argent, etc. On comprend alors l'analyse de Vanessa Codaccioni lorsqu'elle affirme que l'antiterrorisme est une espèce de double aggravé du droit commun, presque en forme de miroir. Encore dans l'article 421, alinéa 2, il est défini comme terroriste le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux dans le milieu naturel. En tant que militant, on pense tout de suite à Lubrizol, au scandale du chlordécone, aux 193 essais nucléaires en Polynésie, etc. Mais non, il faut que ces mêmes actes soient intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, pour qu'il soit qualifié de terrorisme. Donc l'antiterrorisme ne vient pas réprimer un degré extrême de violence, contrairement à ce qu'il prétend, mais un degré de subversion et d'opposition à l'ordre établi. Les travaux du militant et socio-historien Mathieu Rigouste nous éclairent particulièrement pour comprendre ce qu'est l'antiterrorisme aujourd'hui. Dans son ouvrage « L'ennemi intérieur », La généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine, paru en 2008, il cite Émile Giraud, professeur de droit, lors d'une conférence à l'Institut des hautes études de défense nationale en 1959. Je pense que la seule solution humaine et pratique consiste à placer les gens qu'on considère comme dangereux ou comme suspects dans des camps d'internement où ils seront traités convenablement, mais où ils seront dans l'impossibilité de se livrer à des activités hostiles dirigées contre le gouvernement national. Un autre exemple parlant est ce que le colonel Lacheroy a théorisé dès 1953. Les cinq phases du pourrissement révolutionnaire, un des piliers de la doctrine contre-subversive. Ce schéma présentait la guérilla, la subversion généralisée, puis la guerre civile comme la résultante de faits subversifs mineurs, comme des insoumissions ou des prémices d'organisation politique qui n'auraient pas été écrasées dès l'origine. Cette théorie préconise donc de traquer les potentiels indices dans la population qui permettraient de déduire des désirs de subversion chez des individus afin de les tuer dans l'œuf. Cela nécessite l'omniprésence du renseignement et la surveillance massive de la population. Et si on pousse à son accomplissement cette doctrine, elle vise l'épuration de tout élément culturel qui serait identifié comme déterminant dans un processus de radicalisation. D'où l'analyse systématique de lecture, de musique, d'opinions philosophiques et politiques, de l'usage des réseaux sociaux, de modes de vie, etc. Ces mécanismes totalitaires s'étendent aujourd'hui dans le droit au travers de la lutte antiterroriste et de la doctrine de la sécurité globale. Mais on les trouvait déjà dans les lois scélérates à la fin du XIXe siècle. En 1872, dans sa théorie du code pénal, Faustin Hélie définissait l'esprit dans lequel la législation antiterroriste est pensée aujourd'hui. Il décrit « De là les incriminations multipliées, pour ainsi dire, autour de leurs pas, comme autant de barrières pour arrêter dès leur premier essor, pour retenir chacun de leurs actes, pour les comprimer dans la pensée où ils germent. » Donc quand il dit « ils », c'est les anarchistes de l'époque. En effet, d'après le site Lexis 360, l'objectif essentiel d'une lutte efficace contre le terrorisme est de neutraliser préventivement des actes potentiellement terroristes. À ce titre, l'incrimination autonome de l'association de malfaiteurs à caractère terroriste est devenue la clé de voûte d'une politique pénale tournée vers l'anticipation. Elle vise l'incrimination de comportements périphériques à la commission de l'acte terroriste proprement dit. Il faut dès lors définir des circonstances et des intentions qu'on pourrait présumer derrière ces comportements périphériques pour parvenir à démontrer un engagement autonome dans une démarche de radicalisation à caractère terroriste s'orientant vers un possible passage à l'acte. On nage dans un trop-plein juridique complètement absurde, alimenté par des jurisprudences islamophobes. En gros, un vague esprit de projet suffit à qualifier une association de malfaiteurs. Une personne peut constituer une association de malfaiteurs à elle seule. Ou encore mieux, même si une personne n'en a pas conscience, elle peut en faire partie et être condamnée. Un ensemble immense de faits et gestes et paroles peuvent être criminalisés grâce à cet outil. C'est bien de ça dont il s'agit quand Alexis, auteur du livre « Hommage au Rojava et ancien combattant », explique que pour elle, il n'y a plus de paroles perdues. Que n'importe quelle chose qu'on pourrait dire, ça serait la preuve absolue, ça serait la pièce à conviction, la charge la plus importante pour la DGSI en cas de judiciarisation d'un cas. Parce qu'on ne va pas se mentir, les dossiers de la DGSI, c'est beaucoup de subjectivité de quelques officiers un peu bureaucratiques et voilà quoi. Des ronds de cuir qui ne savent pas quoi faire d'autre que de les alimenter. Et eux, ils attendent qu'une chose, c'est d'avoir un peu de concret à mettre derrière, un support. Et ce support, il peut venir que de nous la plupart du temps. C'est si on le donne ou pas. Et du coup, ça, c'est assez dur pour l'entourage de comprendre qu'en fait, on ne peut pas parler librement. C'est pas possible. On pourrait d'ailleurs finir, et je vais conclure avec ces mots à lui. Le contre-pouvoir politique que représentaient les médias historiquement a disparu en France. Et ça, nous, on le ressent en tant que volontaires ayant été au Rojava.
Eh bien, du coup, on va poursuivre avec un petit montage que nous avons réalisé avec Vanessa Codaccioni. Elle est professeure à l'Université de Paris 8 et chercheuse notamment sur les questions de répression politique. Vous allez l'entendre, elle a eu la gentillesse de nous accorder cet entretien pour cette émission alors qu'elle était malade et on l'en remercie.
La répression préventive, elle a toujours existé. C'est-à-dire, on peut même remonter au 19e siècle, par exemple, l'association de malfaiteurs qui avait été mise en place pour lutter contre les anarchistes. C'était déjà une forme de répression préventive. Et d'ailleurs, si on fait l'histoire de l'association de malfaiteurs, on voit bien que cette répression préventive-là a arrêté les gens avant qu'ils ne passent à l'acte uniquement parce qu'ils se seraient associés dans le but de faire quelque chose. Ça a toujours existé. Mais c'était vraiment très ciblé. Dans des contextes très précis. Aujourd'hui, on voit très bien que cette répression préventive, elle est quasiment dominante. C'est-à-dire qu'on veut véritablement empêcher les gens de militer, tout en les effrayant. Et on voit très bien que ça soit effectivement l'affaire du 8 décembre, alors avec une accusation extrêmement grave, mais aussi dans du militantisme plus quotidien comme manifester, il y a cette répression préventive et cette dimension préventive. C'est le cas par exemple avec le mouvement des Gilets jaunes, où des centaines, des centaines, des centaines d'individus n'ont même pas pu manifester, puisqu'ils ont été arrêtés avant même la manifestation et menés en garde à vue. Donc on voit très bien que ce système de répression préventive qu'on hérite de l'antiterrorisme, empêcher que quelqu'un ne passe à l'acte, qu'il ne pose une bombe, qu'il ne commette un attentat, s'étend à la contestation politique. Ne plus contester, ne plus lutter, ne plus revendiquer. L'idée, c'est d'arrêter énormément de gens, de les effrayer, de les réprimer avant, et de trier. Donc, c'est-à-dire qu'ensuite, seuls certains iront en procès. Alors, la question dans l'affaire du 8 décembre, c'est est-ce qu'ils vont garder l'association de malfaiteurs terroristes, comme dans le cas de Tardac, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont garder jusqu'au bout l'inculpation de terrorisme, qui est extrêmement grave, et ensuite, effectivement, ils peuvent aller en procès avec les rapports des services de renseignement, avec des preuves, des déclarations, etc. C'est tout à fait possible, même si je dis toujours qu'aujourd'hui, dans le cadre de la répression actuelle des militantes et des militants, il faut vraiment regarder ce qui se joue déjà avant le procès. Parce que la répression, elle est là aujourd'hui, en fait. Le procès, il est moins... Alors, il est bien sûr, attention, hein, ça peut être très grave, ça peut déboucher sur des peines très dures, etc. Mais ce qui se joue avant est aussi très, très dur. Et parfois, elle se joue là, la répression, plus qu'au procès. Eh bien, en fait, la répression préventive, ben, c'est la fin de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que la répression préventive, elle va arrêter tout un tas d'individus, c'est ce qu'on appelle les coups de filet, et ensuite, on va laisser à la justice, peut-être avant, mais en particulier à la justice et au parquet, le soin de trier qui est coupable ou innocent, en tout cas, qui doit être jugé et qui ne doit pas l'être. Ce qui fait qu'en réalité, une fois que vous êtes arrivé, vous êtes présumé coupable. On va vous arrêter parce que vous représentez, a priori, une menace. Et tant que quelqu'un n'a pas dit que vous ne représentez aucune menace, que vous n'êtes pas jugeable, que vous ne méritez pas une peine, vous êtes coupable. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien partout. Et ce qui est très important, c'est que ça, c'est hérité véritablement de l'antiterrorisme. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que cette notion de présomption de culpabilité, elle a été validée par le droit. C'est-à-dire qu'en France, le Conseil constitutionnel a validé cette notion de présomption de culpabilité, qui vise à à reconnaître que quelqu'un peut être arrêté avant qu'il ne passe à l'acte parce qu'il est potentiellement dangereux. Et ça a même été validé, je crois, par le Conseil de l'Europe ou la Commission européenne des droits de l'homme qui dit que dans certains cas, oui, il peut y avoir une présomption de culpabilité. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pernicieux, très dangereux, et qui rejoint effectivement cette dimension de la justice préventive, de la répression préventive, de la logique du doute et du soupçon permanent. Et effectivement, hein, vous pouvez être présumé coupable avant toute forme de justice, avant toute forme d'intervention judiciaire.
Mais là, ce qui me surprend, par exemple, dans cette affaire-là, c'est que comparativement à une affaire comme celle de Tarnac,
oui,
il y a excessivement peu de réactions.
Il me semble que cette affaire, elle est moins relayée, moins connue, elle est moins dénoncée aussi, pour deux raisons. C'est que d'une part, le gouvernement n'en a pas fait tout un plat, comme il avait fait dans le cas de Tarnac, où il avait annoncé l'arrestation en grande pompe. Alors ça a été fait aussi dans l'affaire 8 décembre, mais dans la cas de l'affaire Tarnac, il y avait vraiment une vidéo, c'était monté en puissance, il y avait le criminologue Alain Bauer qui s'en était mêlé. Enfin vraiment, ils en avaient fait des caisses. Là, ils ont été beaucoup plus discrets, certainement d'ailleurs au regard de ce qui s'était passé avec Tarnac. Ça, c'est à mon avis la première raison, ne pas trop se congratuler avant. Et la deuxième raison, ça tient certainement aussi à l'identité des personnes qui sont accusées, arrêtées, et réprimés préventivement avant leur procès, qui n'ont pas, disons, le réseau militant et de l'affaire Tarnac, qui était quand même bien inséré dans les milieux et militants et intellectuels et qui ont peut-être plus mobilisé plus rapidement des personnalités.
D'accord. Et donc, pour vous, ce type de dispositif, c'est pour peser en amont ?
Ah ben, évidemment. C'est pour peser en amont, c'est pour récolter le plus d'informations possible, c'est pour dresser des profils militants, c'est pour faire des listes, c'est pour faire des fichiers, c'est pour faire peur. Ça a énormément d'utilité hein, pour le pouvoir politique et les institutions de répression de faire ça. Et en plus, je pense que ça a vraiment pour objectif de montrer que l'État fait quelque chose contre une menace qui est décrite comme prioritaire l'ultra-gauche. Donc ça montre qu'on fait quelque chose, ça justifie aussi l'existence de l'appareil répressif et des pouvoirs continus qu'on lui donne, sinon à quoi il sert l'appareil répressif ? À quoi il sert les services de renseignement ? À quoi il sert la police ? Il faut bien montrer qu'elle sert à quelque chose. Et enfin, moi je suis bien persuadée que ça sert à effrayer, c'est-à-dire à dire aux gens, vous allez regarder ce qu'on a fait, regardez cet exemple, vous voulez finir comme ça ? Et je pense que ça a une fonction disciplinaire au sens de Michel Foucault. Pour que les gens se désengagent ou au moins modifient leur comportement. Je suis persuadée de ça.
Pourquoi vous pensez qu'ils s'intéressent particulièrement à ce milieu de l'extrême gauche actuellement là ?
Parce que ça a toujours été le cas. Parce que l'extrême gauche a toujours été l'ennemi public numéro 1 en France, ça il ne faut jamais l'oublier. Ça date au moins depuis la révolution russe de 1917, hein, donc c'est pas nouveau, et on peut même remonter au 19e siècle avec les anarchistes. Sauf que, depuis le début des années 2000, il y a un renouveau de la répression contre l'extrême gauche, qui s'est un peu affaissé et amoindri dans les années 80 et 90, mais qui est redevenu très importante avec le renouveau des mouvements sociaux, tout simplement. Lutte contre le CPE, mouvement contre la loi travail, apparition du Black Bloc, qui est très important aussi parce qu'il va modifier les cadres de pensée de la police et des gouvernements qui vont dire on a affaire là à des individus très dangereux, assimilé à des terroristes, hein, c'est à la fois terroriste et casseur, et donc il va justifier une surveillance constante et puis une répression de toutes les personnes qui pourraient être des casseurs. Et donc là, hein, tout l'enjeu des services de renseignement aujourd'hui, et aussi des policiers, c'est de repérer les casseurs, de distinguer les bons militants des mauvais militants, voire des faux militants. Et ça, on le voit très bien aujourd'hui. C'est très très important dans l'activité répressive de l'État.
Comment vous envisagez que les comités, que les inculpés puissent réussir à résister ?
Ça, c'est extrêmement compliqué comme question. Déjà, il faut choisir un bon avocat. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas se couper d'avocat parce qu'on sait très bien que la question de l'avocat elle est extrêmement importante ou pas. Il faut bien préparer sa défense. Il faut savoir si on veut faire une défense politique ou pas, en sachant que défense politique, c'est très bien, mais c'est très risqué. Donc, il faut vraiment contrebalancer ça avec les preuves. C'est-à-dire que on peut politiser un procès et on peut politiser une défense, même quand on est dans un comité de soutien, même quand on est une personne solidaire, mais il faut toujours peser le pour et le contre pour les accusés. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'alerte, hein, c'est-à-dire faire attention à ce que ça ne joue pas en préjudice. Il faut parler le moins possible, évidemment, toujours en concertation avec un avocat. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, évidemment, de ne pas s'incriminer soi-même. Et je pense que là, les accusés, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, si j'ai bien compris. Donc, il faut répondre à ce qui n'est pas incriminant, mais c'est très difficile de savoir ce qui n'est pas incriminant, parce qu'on peut tout vous reprocher. On peut vous reprocher des choses que vous avez écrites sur votre téléphone portable, on peut vous reprocher quelque chose que vous avez pensé, on peut même peut-être vous reprocher quelque chose que vous avez lu, quelque chose que vous, quelqu'un que vous avez rencontré. Enfin, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est incriminant ou pas aujourd'hui, tellement il y a des choses qui sont possiblement incriminantes.
Et du coup, par rapport à cette question qui était sur le fait de procéder à des enquêtes sur les avocats, c'est une nouveauté ou c'est quelque chose que vous avez déjà vu?
Alors ça, c'est quand même quelque chose de très, très important parce que ça signale que l'affaire est grave. Et ça signale que l'affaire, l'appareil répressif est vraiment en marche et qu'on veut vraiment en faire une grosse affaire. J'ai vu ça dans le passé. Et dans des cas extrêmement graves, c'est-à-dire pendant la guerre d'Algérie, où les avocats étaient constamment surveillés, leurs affaires fouillées, ils pouvaient même être subir la répression comme des formes d'internement. Bon, en Algérie, on est là interné, on en a tué. Mais là où on a vu récemment un avocat de militants mis en cause, c'est dans le cas du procès de Bure, où l'ancien Étienne Ambroselli, qui était l'avocat des militants de Bure, a été pris. Dans l'affaire d'association de malfaiteurs, son appartement a été perquisitionné, ses affaires saisies, ce qui était extrêmement grave, et ce qui a suscité un effroi parmi les milieux, même du barreau, qui a pris sa défense. C'est pour signaler que c'est des choses très rares, mais qui, quand même, on voit, tendent à se multiplier. Ce qui veut dire aussi que l'avocat n'est plus un protecteur, je ne sais pas comment dire ça. Avant, l'avocat, il était intouchable. C'était le secret professionnel et c'était l'avocat. Aujourd'hui, on voit même que l'avocat, il n'est pas intouchable. Et donc, on voit très bien que finalement, toute personne peut être visée par la répression. Ce qui montre que les filets de la répression s'étendent. Eh bien, il y a moyen de réhabiliter les gens, soit au niveau de... avant le procès, c'est-à-dire c'est le magistrat du parquet qui va décider que bah, finalement, non, il n'y a aucune charge. Ça, c'est tout à fait classique dans les cas de coups de filet. C'est-à-dire, on fait des grands coups de filet, on effraye les gens, on les réprime, on leur fait peur, on les traumatise, on les garde à vue, on les emprisonne peut-être préventivement. On les traite comme des grands criminels et puis après on dit ah non, finalement il n'y a rien. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver. Et ensuite c'est le moment du procès, évidemment, qui va sanctionner définitivement si oui ou non il y avait présomption de culpabilité, si cette présomption de culpabilité elle est justifiée. On a vu que dans le cas de l'affaire Tarmac, ça tombait. On a vu que dans des cas de centaines et peut-être de milliers de gilets jaunes, ça tombait aussi. Il faut quand même se rendre compte qu'on est vraiment dans une forme de répression des contestations de mouvements sociaux très dur aujourd'hui. C'est vraiment toute la logique du maintien de l'ordre qu'il faudrait revoir aujourd'hui. Il y a des gens qui se battent pour ça, pour qu'on ait un maintien de l'ordre qui ne soit plus du tout dans cette escalade-là, dans cette prévention-là. Puis il faudrait détricoter des lois, il faudrait enlever la loi anti-casseurs, c'est tout un système qu'il faudrait revoir, en fait. Sans vouloir désespérer, mais on est allé très loin, là. Donc, voilà.
Merci beaucoup encore à Vanessa Codaccioni. Je vais remercier l'ensemble des personnes qui ont eu le courage de prendre la parole ce soir. Donc, Les deux personnes qui étaient sur le plateau, merci beaucoup. Et je sais que c'est pas facile d'être par téléphone. Merci beaucoup aux copains et copines à Paris. Merci au comité de soutien de Toulouse et aussi un très grand merci au Festival Intergalactique d'avoir permis cette parole. Et je rappelle que et ce depuis bientôt un an, on demande la libération immédiate de Libreflo, qui est le dernier camarade enfermé, maintenu à l'isolement, et l'arrêt de l'acharnement judiciaire sur l'ensemble des inculpés de cette affaire du 8 décembre. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Et toutes.
Vous venez d'écouter l'émission Antiterrorisme et désinformation de Radio Piquez. Vous pouvez retrouver cette émission et d'autres sur le même sujet sur le site marsinfo.org. Voilà, c'est fini aujourd'hui pour Libre Débat. À la semaine prochaine.